Bonjour, ici Marc, bienvenue au 68e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse. Comment fabriquer des monstres ? Il convient également de mentionner ici l'étude psychologique menée à l'université de Stanford en 1971, dans laquelle une sorte de prison fictive a été mise en place, avec des dizaines d'étudiants désignés comme faux prisonniers et d'autres comme faux gardiens de prison. L'expérience a dû être interrompue prématurément après seulement 6 jours, parce que ceux qui avaient reçu l'autorité, les gardiens, étaient devenus scandaleusement insensibles, abusifs et sadiques à l'égard de leurs prisonniers. On notera que les abus commis par les « gardiens » sont allés au-delà de ce qui leur avait été demandé par les responsables de l'expérience, qui visaient à humilier et à dégrader les prisonniers. Cela montre que les tendances personnelles malveillantes ou sadiques d'un individu sont un facteur important contribuant à de tels abus, mais que la plupart des gens ne passent ouvertement à l'acte que lorsqu'ils occupent une position d'autorité, qu'ils croient leur donner la permission de le faire. Le même phénomène peut être observé dans toutes sortes d'abus de pouvoir, qu'il s'agisse d'un bureaucrate en mal de pouvoir, d'un soldat ou d'un officier de police qui aime brutaliser ou agresser des civils, ou de tout autre fonctionnaire qui aime exercer son pouvoir sur les autres. Il démontre que non seulement la croyance en l'autorité permet à des personnes fondamentalement bonnes de devenir des instruments d'oppression et d'injustice, mais qu'elle fait également ressortir et amplifie de façon spectaculaire le potentiel de malveillance, de haine, de sadisme et de goût de la domination que ces personnes peuvent posséder. La superstition de l'autorité commence par faire des gens ordinaires de simples agents du mal, ce qu'Arendt a décrit comme la banalité du mal, mais elle continue ensuite à rendre ces gens personnellement mauvais, en les convainquant qu'ils ont le droit, voire le devoir, de maltraiter et d'opprimer d'autres personnes. Cela se voit dans le comportement des soldats, des policiers, des procureurs, des juges et même des petits bureaucrates. Toute personne dont le travail consiste à harceler, extorquer, menacer, contraindre et contrôler des gens honnêtes deviendra, tôt ou tard, au moins insensible, sinon carrément sadique. On ne peut pas agir continuellement comme un monstre sans finir par le devenir. Une autre chose importante à noter, comme le montrent d'innombrables exemples d'abus de pouvoir, est que si la croyance en l'autorité peut conduire les gens à infliger du mal à d'autres personnes, cette même croyance ne peut souvent pas limiter la mesure dans laquelle les agents de l'autorité font du mal à d'autres personnes. Par exemple, de nombreux individus qui n'opprimeraient jamais un innocent de leur propre chef deviennent officiers de police, acquérant ainsi le pouvoir légal de commettre un certain degré d'oppression. Pourtant, dans de nombreuses occasions, ils finissent par aller bien au-delà de l'oppression légale qu'ils sont autorisés à commettre et deviennent des monstres sadiques et assoiffés de pouvoir. La raison pour laquelle la croyance en l'autorité peut pousser les gens à commettre le mal, mais ne peut pas limiter le mal qu'ils commettent, est simple. Hormis les limites techniques censées s'appliquer à un agent de l'autorité, le principal concept enseigné à l'agent d'exécution et le principal concept qu'il doit accepter pour faire son travail est qu'en tant que représentant de l'autorité, il est au-dessus des gens ordinaires et a le droit moral de les contrôler par la force. En bref, on lui enseigne que son uniforme et sa position font de lui le maître légitime de tous les gens ordinaires. Une fois qu'il est convaincu de ce mensonge, il faut s'attendre à ce qu'il méprise le citoyen moyen et le traite avec mépris, de la même manière, et pour la même raison, qu'un propriétaire d'esclaves traite ses esclaves non pas comme des êtres humains, mais comme des objets qu'il possède, dont les sentiments et les opinions n'ont pas plus d'importance que les sentiments et les opinions du bétail ou des meubles qu'il possède aussi. Il est très révélateur que de nombreux responsables de l'application des lois modernes se mettent rapidement en colère, voire deviennent violents, lorsqu'un citoyen ordinaire s'adresse simplement à l'officier en tant qu'égal, au lieu d'adopter le ton et le comportement d'un subalterne soumis. Encore une fois, cette réaction est exactement la même et à la même cause, que celle qu'aurait un maître d'esclave lorsqu'un esclave insolent s'adresserait à lui d'égal à égal. Les exemples ne manquent pas, comme en témoignent les nombreuses vidéos d'abus policiers diffusées sur Internet de représentants supposés de l'autorité entrant dans une colère noire et recourant à la violence ouverte simplement parce qu'une personne qu'ils ont approchée leur a parlé comme un adulte parlerait à un autre au lieu de parler comme un sujet parlerait à un maître. Les mercenaires d'État voient dans ce manque de soumission un manque de respect. À leurs yeux, quelqu'un qui les traite comme de simples mortels, comme s'ils étaient au même niveau que les autres, manque de respect à l'égard de leur prétendue autorité. De même, toute personne qui ne consent pas à être détenue, interrogée ou fouillée par les représentants de la loi est automatiquement perçue, par les mercenaires de l'État, comme une sorte de fauteur de troubles qui a quelque chose à cacher. Encore une fois, la véritable raison pour laquelle un tel manque de coopération agace les forces de l'ordre autoritaire est qu'il revient à ce que les gens les traitent comme de simples humains au lieu de les traiter comme des êtres supérieurs, ce qu'ils s'imaginent être. Par exemple, si quelqu'un était confronté à un inconnu, sans uniforme, qui commencerait à l'interroger d'une manière manifestement accusatrice et demandait ensuite à pouvoir fouiller ses poches, sa voiture et son domicile, non seulement la personne accostée refuserait presque à coup sûr, mais elle serait aussi probablement scandalisée par cette demande. « Mais vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires, pour qui vous prenez-vous ? » Mais lorsque des inconnus munis d'un uniforme font de telles demandes, ce sont eux qui sont offensés lorsque les cibles de leur harcèlement, accusations et fouilles, intrusifs et injustifiés, s'y opposent et refusent de coopérer. Même lorsque les officiers savent parfaitement que les 4e et 5e amendements de la Constitution américaine stipulent spécifiquement qu'une personne n'a aucune obligation légale de répondre à des questions ou de consentir à des fouilles, un tel manque de coopération, c'est-à-dire le fait de ne pas se plier sans réserve à tous les caprices et à toutes les demandes de l'agent d'exécution, est toujours considéré par la police comme un signe que la personne doit être une sorte de criminel et d'ennemi de l'État. Du point de vue des responsables d'application de la loi, seul un ignoble voyou traiterait les représentants de l'autorité de la même manière qu'il traite les autres. Encore une fois, ce n'est pas ainsi que la plupart de ces personnes voient le monde avant de devenir des agents de la force publique. Au cours de leur formation autoritaire, on leur enseigne spécifiquement à traiter les gens comme des inférieurs, à toujours essayer de prendre le contrôle de tout et de tous dès qu'ils arrivent sur les lieux, en disant à chacun où aller, quoi faire, quand il peut parler et ainsi de suite. On ne leur dit pas seulement qu'ils ont le droit de donner des ordres à tout le monde, ce qui sera déjà dangereux, on leur enseigne qu'ils doivent, dans toutes les situations, utiliser tout ce qu'il faut, ordre, intimidation ou violence pure et simple, pour amener toutes les personnes présentes à se plier à leur autorité. Et on leur enseigne que c'est un crime pour quiconque de ne pas se plier sans réserve à leur volonté, ce qu'ils qualifient de désobéissance à un ordre légal. Il est également très significatif que la police a l'habitude, dès son arrivée sur les lieux, de s'assurer que personne d'autre n'est armé d'une quelconque arme et de désarmer quiconque l'est, avant même de savoir qui sont les gens ou ce qui se passe, et même si les gens sont légalement armés. Le but évident de cette pratique est de créer immédiatement un énorme déséquilibre de pouvoir où seuls les responsables de l'application de la loi ont la capacité d'imposer par la force leur volonté aux autres. Imaginez l'arrogance nécessaire pour qu'un citoyen ordinaire arrive sur les lieux sans connaître la situation et les personnes impliquées et que sa toute première pensée soit « personne n'a le droit d'avoir une arme sauf moi ». En résumé, les forces de l'ordre sont formées pour être des mégalomanes oppresseurs et pour traiter tous les autres comme du bétail. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, toute personne qui traite régulièrement les autres de cette façon, de la façon dont les forces de l'ordre sont tenues de traiter tous les autres, apprendra à mépriser les autres et à les traiter avec dédain, irrespect et hostilité. Quelle que soit la bonté ou la méchanceté de cœur d'un individu au départ, le moyen de faire ressortir le pire en lui est de lui donner une autorité sur les autres. Note personnelle de l'auteur, plusieurs anciens officiers de police m'ont personnellement dit qu'ils avaient quitté la police après avoir constaté que leur travail et leur prétendue autorité les transformait peu à peu en monstres. L'un d'entre eux a d'ailleurs utilisé ce mot exact. En toute honnêteté, de nombreux responsables de l'application des lois s'efforcent d'être des « gentils » et tentent au moins de traiter les autres avec respect. Mais, en fin de compte, ils ne peuvent pas traiter les autres sur un pied d'égalité tout en étant des responsables de l'application de la loi. Ils peuvent être amicaux et même s'excuser, par exemple « désolé, mais je vais devoir vous demander de… » Mais leur travail exige toujours qu'ils contrôlent et extorquent les autres de manière coercitive, et pas seulement ceux qui ont réellement fait du mal à quelqu'un. Un policier ne peut pas traiter les autres sur un pied d'égalité sans perdre son emploi. Imaginez un policier qui ne procéderait pas à des contrôles routiers, à des fouilles, à des détentions et à des interrogatoires, ou qui n'utiliserait la force physique contre quelqu'un que dans des situations où vous vous sentiriez justifié de le faire vous-même, sans qu'un uniforme ou une loi ne vous l'interdise. Il en va de même pour les enquêteurs, les procureurs et les juges du gouvernement. Tout fonctionnaire qui refuserait d'enquêter, de poursuivre ou de condamner quelqu'un pour un crime sans victime perdrait rapidement son emploi. Ce n'est pas aux agents de l'autorité de décider quelle loi appliquer. S'il existe des lois moralement illégitimes, et c'est le cas, toutes les branches de l'application de la loi autoritaire sont tenues de les appliquer, contribuant ainsi à l'extorsion et à l'oppression de personnes innocentes. Même si une grande partie de ce qu'il fait est destinée aux véritables criminels, ceux qui ont commis des actes d'agression contre d'autres personnes, chaque responsable d'application de la loi, dans le cadre de son travail, est tenu de commettre lui-même des actes d'agression. Certains ne font pratiquement rien d'autre que d'initier la violence, comme les percepteurs d'impôts, les agents des stupéfiants et les agents de l'immigration. Il est donc littéralement impossible, dans presque tous les cas, de travailler pour le gouvernement sans commettre des actes d'agression immoraux. Être un responsable d'application de la loi est presque toujours mutuellement exclusif avec être une personne morale. Même s'ils s'acquittent poliment de leurs tâches et même si en plus de s'attaquer aux citoyens ordinaires, ils s'attaquent également aux véritables criminels, ceux qui font des victimes, les forces de l'ordre sont toujours des agresseurs professionnels, qui soumettent le peuple à la volonté des politiciens par la violence et la menace de la violence. Et quiconque fait cela, s'il n'avait pas déjà un certain degré de mépris et de haine pour son prochain, le développera presque à coup sûr. En d'autres termes, même le propriétaire d'esclaves le plus gentil et le plus amical, s'il continue à croire en la légitimité de l'esclavage et à le pratiquer, commettra le mal et infligera des dommages aux personnes qu'il considère comme sa propriété légitime. Il développera naturellement du mépris à l'égard des victimes de son agression et se comportera de manière méprisante à leur égard. La capacité de la croyance en l'autorité à créer du tort et son incapacité simultanée à limiter ce tort, une fois que le maître s'imagine avoir le droit de régner sur ses inférieurs, peuvent être observés non seulement sur une base individuelle, mais aussi à grande échelle. La plupart des débats et des écrits qui ont conduit à la ratification de la Constitution américaine se sont concentrés sur la limitation des pouvoirs du gouvernement fédéral et sur la discussion de toutes les choses qu'il n'était pas autorisé à faire. La Déclaration des droits, par exemple, est une liste de choses que la Constitution interdit au gouvernement américain de faire. En fait, les 9e et 10e amendements en font une liste ouverte, de sorte que le gouvernement fédéral, en théorie, n'est pas censé faire autre chose que ce que la Constitution l'autorise spécifiquement à faire. Néanmoins, à l'exception peut-être du 3e amendement, la Déclaration des droits est aussi une liste de droits que les agents fédéraux violent tous les jours, dans tous les États de l'Union. En réalité, que ce soit au niveau individuel ou national, dire à quelqu'un « tu as le droit de dominer les autres, mais seulement dans ses limites » aboutira tôt ou tard à ce que cette personne domine les autres sans reconnaître aucune limite à son pouvoir. À long terme, il n'existe pas et ne peut exister de gouvernement limité. Car une fois que quelqu'un est accepté par les autres comme un maître légitime et qu'il estime avoir le droit moral de gouverner, il n'y aura rien ni personne au-dessus de lui, avec le pouvoir de le restreindre. Au sein d'un gouvernement, une autorité supérieure peut choisir de limiter une autorité inférieure, mais la logique et l'expérience montrent qu'une hiérarchie autoritaire, prise dans son ensemble, ne se limitera jamais longtemps. Pourquoi le ferait-elle? Pourquoi un maître mettrait-il ses propres intérêts au-dessous de ceux de ses esclaves? La Constitution en est un parfait exemple. Un morceau de parchemin qui prétendait accorder une autorité très limitée à certaines personnes, mais qui n'a absolument pas réussi à empêcher ces personnes de dépasser ses limites, créant quelque chose qui s'est finalement transformé en l'empire autoritaire le plus puissant de l'histoire. Et le problème ne peut être résolu en nommant une autre série de maîtres, par exemple un système judiciaire au sein de la même structure autoritaire, dans le but supposé d'imposer des limites à la première série de maîtres. La séparation des pouvoirs, les freins et contrepoids et les procédures nécessaires n'ont aucun sens si les maîtres et ceux qui sont chargés de les limiter font partie de la même organisation autoritaire. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, diaboliser la victime.